Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Faut...
ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midi, mes parents sont rentrés.
Bienvenue sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On est au Canu Info du lundi soir. Du coup, ce soir, on va vous parler de plein de choses. Et à l'international, on va d'abord parler du meurtre de Marielle Franco. Et je sais pas pourquoi ça siffle.
Ça siffle.
Ouais. Du meurtre de Marielle Franco. On va vous parler aussi de la Cisjordanie avec Ahmed Aed Tamimi, condamné à du ferme. On va vous parler de Puigdemont emprisonné en Allemagne, de Lafarge et l'État. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Non, on fera pas Puigdemont.
Ah, on va pas le faire. Bon, bah, d'accord.
C'est un bourgeois, on n'en parle pas.
On va vous parler de Lafarge et de l'État français qui savait tout ce qui se passait.
Ah, Lafarge, on n'en parle pas, c'est des multinationales.
Voilà, on va plus faire de Canu Info si c'est ça. T'sais. On va vous parler aussi des Chinois et du crédit social chinois, une manière de classer les individus pour leur donner accès ou pas à des transports notamment. Au national, on va vous parler de Pénicaud qui valide le licenciement de Gaël Quirante, plutôt actif, on le sait, sur la défense des droits des salariés. On va vous parler de la grève des cheminots et des journées interpro. On va aussi vous parler de la grève illimitée du secteur des déchets à partir du 3 avril et de Jean-Claude Mailly, le jaune. On vous parlera aussi des agressions fascistes à Montpellier et au lycée autogéré de Paris. On va vous parler aussi de la répression à la fac de Grenoble, parce que tout s'enchaîne actuellement. Et on vous parlera au local de l'antipatriarcat et des actions contre la venue de Canta, Bertrand Canta, le chanteur donc, de Noir Désir, au Transborder. Et puis on vous fera un petit dossier sur la question des frontières sous la neige, avec un invité spécial. Et puis après, on vous fera le traditionnel agenda.
Et pour commencer à l'international, avec l'assassinat de Marielle Franco, puisqu'il s'agirait bien d'un assassinat. Dans la nuit du mercredi 14 mars, Marielle Franco, militante féministe de la cause noire et contre les violences policières, elle-même femme racisée et lesbienne originaire des favelas, qui était aussi conseillère municipale du parti Socialisme et Liberté à Rio de Janeiro, a été tuée par balle en plein centre de la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Donc elle a été tuée par 4 balles calibre 9 mm tirées à bout portant dans une rue passante, et les cartouches provenaient d'un lot vendu en 2006 à la police fédérale de Brasilia. Donc selon un quotidien brésilien, une partie de ce lot a déjà été identifiée dans l'une des pires, dans une tuerie de l'État de Sao Paulo, la tuerie Chacina de Barueri et Osasco, désolé pour la prononciation, deux villes de la périphérie.
Ça siffle, il y a comme un petit souci quoi, dans le studio là.
Ouais.
C'est pas désagréable, mais c'est...
C'est ultra désagréable.
En fait, c'est ultra désagréable, désolé.
Je ne sais pas. Ah, ça va mieux, non, là ?
Ouais, c'est mieux. C'est bon ?
Vas-y, continue. Ouais.
Je reprends. Du coup, selon un quotidien brésilien, O Globo, une partie de ce lot de balles, donc, avait déjà été identifiée dans la tuerie Chacina de Barueri et Osasco, deux villes de la périphérie, où 17 personnes ont été abattues en 2015 par des policiers militaires en représailles de la mort d'un des leurs. Donc Marielle Franco a très probablement été assassinée par des policiers parce qu'elle s'opposait encore récemment ouvertement à la politique sécuritaire du gouvernement de Michel Temer, qui a décrété en février une intervention fédérale militaire pour reprendre le contrôle de la sécurité du pays, un espèce de méga état d'urgence réduisant encore les droits des citoyens brésiliens et laissant le champ ouvert à encore davantage de violences policières. Mais son assassinat est aussi un symptôme de la violence qui touche de façon particulière les femmes, les populations noires et LGBT. Violence économique et sociale qui laisse nombre de ces personnes dans une grande précarité au quotidien, avec un accès restreint aux formations, aux postes de travail, aux conditions de logement dignes. Violence symbolique qui entraîne des manifestations ouvertement de plus en plus fréquentes de racisme et de discrimination. Et violence physique dans sa forme la plus extrême, puisque en 2017, le pays a recensé 61 619 homicides, soit une mort brutale toutes les 9 minutes. Et les pauvres, les noirs et les habitants des favelas et les personnes LGBT sont les premières victimes de ce qu'on a pu qualifier de véritable guerre civile. Sur 100 personnes assassinées au Brésil, 71 sont noires, selon l'Atlas de la violence publié en 2017. Toujours selon le quotidien O Globo, une personne LGBT meurt toutes les 19 heures en raison de comportements haineux entraînant des suicides ou des meurtres. Alors, après l'assassinat de Marielle Franco, il y a déjà de fausses rumeurs de ses ennemis qui font d'elle la protectrice de gangsters, la maîtresse d'un dangereux trafiquant de Rio. Notamment, donc, ces rumeurs ont été véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux, par une juge de Rio, un parlementaire membre du lobby des armes à feu ou encore des militants de droite représentants du Movimento Brasil Libre. Ces attaques, qui sont une ultime violence contre Marielle Franco, ne font que renforcer la colère et la détermination de nombreux Brésiliens contre le racisme, contre le sexisme, contre l'homophobie et les violences policières. À Rio, le 18 mars, près de 2000 personnes étaient dans la rue.
On va continuer avec des nouvelles de l'État colonial d'Israël et de la résistance palestinienne. En décembre dernier, il y avait une jeune Palestinienne de 16 ans qui avait giflé un soldat israélien en Cisjordanie occupée. Arrêtée dans la nuit du 18 au 19 décembre à son domicile, elle est depuis lors en détention provisoire et vient de passer devant la cour martiale israélienne. La gifle qui lui est reprochée est rapidement devenue symbolique de la résistance du peuple palestinien face à l'État colonial d'Israël. Elle intervenait après qu'un soldat ait tiré dans la tête de son cousin âgé de 15 ans une balle en caoutchouc. Acte n'ayant bien entendu à aide et qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que du coup, non, parce qu'on me montre un. C'est... Moi aussi, j'ai à être Tamini. Hein. Ouais, y a pas de souci. Donc, je reprends parce que du coup, j'ai perdu mes.
Mais...
Merci notre invité. Alors, la gifle qui lui est reprochée est rapidement devenue symbolique de la résistance du peuple palestinien face à l'État colonial d'Israël. Elle intervenait après qu'un soldat ait tiré dans la tête de son cousin âgé de 15 ans une balle en caoutchouc. Acte n'ayant entraîné, bien entendu, aucune charge contre le militaire. Pas moins de 12 chefs d'accusation étaient retenus contre elle, comme incitation à la violence, jet de pierre sur des patrouilles militaires, violence aggravée sur militaires. À la question de la juge qui lui demanda comment elle avait donné la gifle, la jeune palestinienne de Nabi Saleh, village palestinien en territoire occupé, répond « Enlevez-moi mes menottes et je vous montrerai ». Issue d'une famille de militants opposants à l'occupation, Aed participait depuis son plus jeune âge aux manifestations. On la voit sur des photos d'archives faire face aux militaires, le poing en l'air, alors âgé de 9 ans. La justice coloniale a tranché dans cette semaine, condamnant la jeune fille, comme plus de 350 mineurs palestiniens jugés avant elle, à de la prison ferme. Par le biais d'un accord, alors je mets des guillemets sur accord, conclu avec le concours de son avocate et la menant en réalité l'obligeant à plaider coupable pour éviter les 7 ans de prison ferme encourus, elle écope de 8 mois ferme ainsi que d'une amende de 1 166 €. Suivant les mêmes modalités d'un accord avec le procureur, la cousine d'Ahed, Nour, a été condamnée à 16 jours de prison et 470 € d'amende pour agression contre un soldat israélien. En ce qui concerne la mère d'Ahed, elle a été condamnée à 8 mois de prison et 1 400 € d'amende. Le cousin de 15 ans d'Ahed, qui a déjà payé le prix fort via plusieurs fractures du crâne, tandis qu'un autre de ses cousins a été abattu par Tsahal d'une balle dans le cou, a déjà payé du coup le lourd tribut qu'il encourt de résister à l'occupation israélienne. On remarquera quand même que cette histoire a été quand même pas mal médiatisée par rapport à d'autres qui souvent restent dans l'invisibilisation totale. On pourrait éventuellement attribuer ça au fait que Ahed Tamimi est très blanche de peau avec les cheveux blonds et que, en fait, c'est triste, mais sa photo a fait vraiment le tour du monde alors qu'il y a des tonnes de Palestiniens qui se font démonter tous les jours presque, en tout cas en moyenne tous les jours. Et que ça n'empêche pas que toutes les vies et toutes les agressions sur des Palestiniens et sur des populations opprimées partout dans le monde sont importantes. En tout cas, c'est important que pour une fois on se soit un peu médiatisé et on souhaite bon courage et une forte lutte aux résistants palestiniens dans les territoires occupés et à tous les gens qui subissent l'impérialisme partout où ça a lieu.
Après, c'est surtout parce que c'est une gamine aussi qui prend 8 mois ferme et 8 mois avec sursis.
Des mineurs qui ramassent, c'est aussi beaucoup. Hein, c'est des 350 mineurs jugés avec de la prison ferme quand même. Hein.
Oui, sauf qu'après, elle appartient à une famille militante qui sont habitués aux mises en scène, etc. Depuis déjà tout petite, elle n'est pas à son coup d'essai. Donc je pense qu'ils ont les moyens de médiatiser et ils savent s'y prendre dans la famille. Tu vois.
Bah, moi, j'espère qu'il y aura d'autres coups d'essai alors.
Sans transition, du coup.
C'est encore à toi.
Et bien voilà. Et donc en fait, des fois, malgré le fait que la télé, c'est quand même globalement en fait les chiens de garde du pouvoir et notamment le service public, mais le service privé, bon, évidemment possédé par des milliardaires. Donc avant, on avait un imaginaire collectif qui disait que le service public c'était, on va dire, moins pire que le privé. Bien entendu, quand l'État est aussi réactionnaire que les multinationales et les grands milliardaires, c'est la même chose. Mais malgré tout, il y a parfois des petits îlots de dénonciation de la brutalité sociale. Et comme par exemple certaines émissions, notamment celle sur Lidl et Free, Cache Investigation animée par la journaliste Élise Lucet. Et là, dans un complément d'enquête du 22 mars sur France 2, on a eu un spécial Lafarge. Donc Lafarge, on s'en rappelle, c'est l'entreprise qui avait collaboré avec l'organisation État islamique en finançant largement l'organisation pour pouvoir continuer son petit business au nord de la Syrie. Donc Lafarge Group du CAC 40. Et depuis lors, parce qu'il y a eu pas mal de révélations quand même, notamment de Mediapart, sinon je pense que ça serait passé crème, mise en examen pour financement du terrorisme. Lafarge a par le passé construit, on le rappelle, le mur de l'Atlantique érigé par les nazis et a récemment candidaté à l'appel d'offres au sujet du mur ordonné par Trump à la frontière mexicaine. C'est même pas un appel d'offres, c'est une candidature spontanée que Lafarge a fait à Donald Trump et à l'État américain. D'après les enquêtes actuelles, l'entreprise versait 25 000 € par mois à l'État islamique ainsi que d'autres bakchiches à des groupes terroristes dans la région de Raqqa. Et dans cette émission, en plus de confirmer toutes ces choses, puisque l'entreprise est mise en examen et que l'enquête est en cours, on a appris que 12 rendez-vous entre Lafarge et la DGSE avaient été pris en l'espace de 3 ans. Effectivement, on peut expliquer ça par le fait que le nord de la Syrie est une position stratégique et notamment l'implantation de l'entreprise est une position stratégique et dans l'optique de l'après Bachar, il était peut-être intéressant d'avoir une entreprise française dans cette zone-là. Bien entendu, c'est le service public, donc on n'en saura pas bien plus. Et c'est certainement très euphémisé tout ce que les avec des guillemets révélations de. On a des problèmes techniques dans le studio. Les révélations de l'émission donc de France 2. Et de toute façon, le procès aura lieu d'ici 2, 3, 4 ans. Donc, en fait, à mon avis, les coupables auront pas trop de problèmes. On pourra rajouter quand même que de toute façon, c'est pas la première fois que les organisations et États impérialistes travaillent ensemble quand ils ont besoin et se font la guerre quand ils ont moins besoin ou quand ils ont besoin de reprendre le dessus. L'État islamique, l'impérialisme occidental, c'est à peu près le même combat, et quand il y a des alliances possibles pour les besoins du business, on n'hésite pas. Et voilà.
Et du coup, maintenant, on va vous parler du crédit social chinois. Alors, c'est un dispositif dont on entend beaucoup parler actuellement parce qu'il y a un journaliste chinois qui s'appelle Liu Hou qui a fait l'expérience, en fait, de ce système-là via une application de paiement qui existe actuellement en Chine. Mais en gros, c'est ce système de crédit social. C'est donc un système qui est lancé depuis 2014 et qui sera normalement opérationnel en 2020. Du coup, l'idée, c'est quoi ? C'est, en gros, de noter les gens par rapport à... finalement, s'ils payent bien leurs dettes, s'ils sont plutôt polis, il y a plein de trucs différents, dont leur fréquentation, les diplômes obtenus, les produits qu'ils choisissent d'acheter aussi également, quoi. Et ce système-là, en fait, en gros, pour les Chinois, actuellement, pour le gouvernement, en tout cas ceux qui le mettent en place, ils visent à construire une culture de la sincérité qui serait pour construire, en fait, cette fameuse société socialiste harmonieuse. Et je rajouterais deux consommations. En fait, il faut savoir qu'en Chine, c'est un dispositif, en gros, de gouvernementalité qui permet, en gros, déjà de classer les individus avec... des qualités qui seraient soit basses, soit hautes, alors des qualités qu'on acquiert via l'éducation ou via l'argent notamment. Plus on a d'argent, plus on acquiert des qualités. Ça s'appelle le suji. Et le but, en fait, de ce dispositif pour le gouvernement chinois, ça serait de maintenir la confiance entre les Chinois. Alors, pour mettre en place ce dispositif, en gros, c'est l'exploitation de plus de 700 millions de données de Chinois, les données de plus de 700 millions de Chinois, et notamment aussi l'exploitation de données disponibles par les institutions d'État, les tribunaux, donc la police, les banques, les impôts, etc. Et en gros, l'idée, c'est qu'un score déterminerait, ou du moins conditionnerait, l'accès alors, au transport public, à certains services publics, aux logements sociaux, à l'emploi, à l'Internet et au crédit. Et du coup, si Arnaud, tu veux bien, si Bidule, tu veux bien, on va passer... On va passer un petit extrait de Black Mirror pour bien qu'on capte, en fait, de quoi il s'agit, quoi. Vas-y. Je t'en prie.
Comment allez-vous ? Merveilleusement bien, merci. Oh, je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé. Non. Non, non. Problème avec un voyageur au décollage. Quoi ? Et à quelle heure est le prochain vol ? Hélas, le souci, c'est qu'ils sont déjà tous complets. J'ai pris mon billet il y a des semaines. Ma meilleure amie se marie.
Je suis vraiment désolée.
Je me dois d'être présente.
Oui, je comprends. Laissez-moi regarder ce que je peux faire.
Merci. C'est adorable. Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir. Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier.
Oh, ça tombe bien, c'est ma note.
J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée.
Eh bien, ce n'est pas ma faute. C'est cette femme qui m'a mis une mauvaise note quand j'ai pris mon taxi.
Vous m'envoyez désolée, mais je ne peux pas faire autrement, voyez-vous.
Mais il ne me manque presque rien.
Je n'y peux rien, madame, c'est le règlement.
C'est pas la même chose.
Non, mais madame, s'il vous plaît, surveillez votre langage.
Pardonnez-moi, le truc, c'est que... En tant que témoin de la mariée, je ne peux pas ne pas assister au mariage.
Et en tant que membre du personnel, je ne peux rien y faire.
Pouvez-vous appeler votre...
Je n'ai pas le droit.
Pouvez-vous appeler votre responsable ?
Je n'ai pas le droit.
Je t'ai demandé d'appeler ton responsable.
C'est du manque de respect. Nous ne tolérons pas le manque de respect.
Veuillez m'excuser, je ne voulais pas.
Je dois m'occuper de cette dame, s'il vous plaît.
Non, 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 non.
Laissez passer la prochaine cliente, madame.
Non, non, s'il vous plaît. Trouve-moi un putain de vol !
Je vous demande pardon. Je viens d'appeler la sécurité.
Non, non, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
Je peux vous mettre la note maximale, et voilà.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Intimidation et injure publique. Non, non, ce n'était pas de l'intimidation. J'essayais seulement de...
Très bien. Donc, afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point. 2% temporaire.
Non.
Cette pénalité sera levée dans 24 heures.
Rendez-moi mes
Sachez
points
que
maintenant.
Durant cette période, toutes les notes négatives seront doublées.
Doublées?
Nous vous recommandons également d'éviter d'attribuer des notes négatives.
Vous me mettez en double peine?
Je vous demande instamment de quitter cet aéroport. Merci.
Et du coup, bah, vous l'aurez compris, on est face à une dystopie qui devrait nous inquiéter au plus haut point. Notamment parce que ce système, en fait, il est déjà en vigueur via une application chinoise qui s'appelle Alipay. Donc c'est une application de paiement mobile. Et en fait, ça fonctionne aussi avec une autre application qui a un système de crédit personnel donné, mis en place par le Jima Crédit. Alors du coup, ce qui est hyper inquiétant, d'une part, c'est que en fait, il y aura des notes qui seront attribuées donc entre 350 et 950, sachant que 722, ça serait la note à partir de laquelle on pourrait avoir à des services acceptables. On va dire ça comme ça. Et que ce système qui est déjà mis en place par le Jima Crédit, en fait, il est couplé en fait à la liste noire des dissidents politiques. Et ce qui devient problématique, donc du coup, c'est qu'on va créer une catégorie de citoyens de seconde zone et que la note va être déterminante pour l'accès donc à des crédits en fonction de la propension à rembourser ces crédits, en fonction des bonnes actions qu'on va effectuer, type don de sang, bénévolat, etc. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut même aller jusqu'aux fréquentations. En gros, si vous avez des proches aussi qui sont bien notés, bah, vous aurez également des bonnes notes. Si vous avez des proches qui sont mal notés, vous aurez des mauvaises notes. Et ça vous donnera, et ça donne déjà accès, en tout cas via cette application, à de meilleurs crédits, à de meilleurs appartements en location, etc. Si vous êtes mal noté, en gros, il faut payer des dépôts de garantie plus chers. Vous avez un internet plus lent, une attente plus longue à l'hôpital, une interdiction de moyens de transport dans certains cas, parce que vous ne seriez pas à même de pouvoir utiliser les transports des élites, etc. quoi. Et donc cette expérience qu'a fait le journaliste Liu Hu, elle est hyper problématique aussi parce qu'on n'est plus dans la question d'une société harmonieuse, on voit bien que c'est un mot creux et qu'on est vraiment dans une société de contrôle, alors qui permettra des contrôles inopinés, des inspections pour savoir si les personnes sont justement ont de bonnes qualités ou pas, quoi. Et en fait, juste pour faire un peu l'intello, c'est un processus en gros de gouvernementalité, ou plutôt ce qu'on appelle une biopolitique, selon Foucault, et qui permet de gérer la conduite des conduites, alors non pas par l'État en lui-même, mais par la population en elle-même. Et donc ça s'inscrit clairement dans la politique néolibérale à l'échelle mondiale, et ça va être un cadre hyper opérant en Chine que Big Brother n'aurait pas su imaginer de la même manière. Et le parallèle qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, ce système de notation, il existe déjà en France, si on regarde bien, via Blablacar ou Uber. C'est-à-dire qu'on note les personnes en fonction de leurs prestations et à partir de là, on prend ou pas le Blablacar, on prend ou pas le Uber, etc. Donc en gros, les gouvernements finalement mettent en place des lois, ils nous délèguent finalement la responsabilité de normaliser ces conduites-là et nous, comme des cons, on note et les Chinois, ils ont fait un dispositif de répression massif.
Voilà. Mieux que Blablacar, il y avait aussi le livret ouvrier qui a sévi quand même pendant pas mal de temps en France, et on a aussi le compte personnel d'activité qui, voilà.
Ça marche pareil, c'est les mêmes types de dispositifs.
Et justement, en parlant monde du travail, passons désormais au national, avec une attaque en règle contre le syndicalisme de lutte et un début de répression avant, au début de ce nouveau mouvement social. Mardi 20 mars, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a décidé d'autoriser le licenciement de Gaëlle Quirante, secrétaire départementale de Sud-Poste dans les Hauts-de-Seine. Donc, l'intéressé l'a appris samedi dernier, le 24, en allant chercher le recommandé qui lui était destiné. C'est la quatrième fois que La Poste demandait son licenciement depuis mars 2007, et l'inspection du travail, comme à chaque fois, saisie pour vérifier si les licenciements de représentants de personnel sont justifiés, a refusé cette procédure. L'administration juge d'une part que les faits reprochés à Gaëlle Quirante ne sont pas assez graves pour le licencier, et d'autre part qu'il est visé en raison de ses activités syndicales. Par deux fois, un ministre du Travail avait confirmé ses refus de licenciement par le passé.
L'actuelle occupante, donc une macroniste et ancienne DRH, enrichie notamment grâce à des licenciements de salariés, donc l'actuelle occupante du poste de ministre du Travail, a donc décidé de changer de position, et ce malgré un nouveau rapport issu de ses services qui recommandait de refuser une fois de plus le licenciement. Donc clairement, il s'agit ici encore de répression syndicale pure et simple, visant à faire taire définitivement cette grande gueule qu'est Daniel Gaël, Quirante. En 14 ans de présence à la poste, Gaël Quirante est devenu l'une des bêtes noires de la direction, qu'il a convoqué à pas moins de 10 entretiens préalables de licenciement ou à sanction disciplinaire, et lui a notifié 264 jours de mise à pied dans 5 procédures distinctes ainsi que 4 blâmes. Et il a un beau,
beau casier,
ouais, beau palmarès. Et du coup, après l'annonce de cette décision, réaction immédiate, dès le lundi matin, le centre postal de Levallois, auquel il est rattaché, était en grève à 90% selon les comptes de Sud PTT. Et les grévistes étaient également majoritaires dans d'autres centres, comme à Malakoff et à Nières. Un rassemblement est aussi prévu ce soir à 19h, donc en ce moment, devant le ministère dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un signe, tout ça, cette répression, que cet homme de 42 ans est un symbole, hein, c'est un militant syndical qui a toujours été omniprésent dans les contestations sociales à la Poste en Ile-de-France et ailleurs, aussi militant du NPA et l'un des animateurs du fameux Front Social. Cette décision, on va l'espérer, va chauffer à blanc nos camarades de la Poste, hein, qui subissent depuis des années les conséquences de l'importation des modes de fonctionnement du privé à la Poste, le lean management, la suppression des services, les licenciements, la fragmentation des services, le harcèlement de la direction. Donc on espère donc tous les retrouver, ces salariés de la Poste, en nombre, à nos côtés et avec les cheminots, aux prochaines manifs.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'une fois j'avais vu une vidéo d'un type qui ressemblait comme deux gouttes de Gaël Quirante, et qui est un peu la bête noire de tous les patrons en Espagne. Et en fait, c'est le frère de Gaël Quirante. Et il fait la même en Espagne. Et c'est assez drôle de voir comme quoi il y a des gens comme ça qui font vraiment chier et qu'on essaie d'éliminer, quoi. Qui font vraiment chier.
C'est drôle non plus, mais...
non, mais en fait, là, c'est pas drôle parce qu'il est en train de se faire licencier. Mais quand ils se font pas licencier, quand ils arrivent à rester comme ça 13 ans longtemps... c'est drôle et à la fois ça donne de l'espoir aussi. On va continuer avec quelque chose qui est très cher à Gaël Quirante, à savoir la grève. C'est avec la grève des cheminots dont on parle pas mal en ce moment, donc cette grève perlée de 2 jours par semaine qui a l'avantage, donc ça c'est l'argument défendu par l'intersyndicale et notamment la CGT qui a poussé dans ce sens, de permettre aux travailleurs de la SNCF de conserver presque intégralité de leur salaire. En gros, ils perdraient 300 euros par mois sur leur salaire, qui, avec les caisses de grève et de soutien, permettrait d'avoir très peu de pertes et donc de tenir longtemps. Ce que j'ai entendu d'après certains cheminots, c'est qu'ils sont plutôt confiants sur le suivi de cette grève et sur le côté massif, le caractère massif de la mobilisation autour de cette grève. De là à pouvoir contrecarrer les plans du gouvernement, c'est une autre histoire, puisque déjà, une grève comme ça, perlée, bon, on est quand même dans quelque chose qui n'est pas totalement frontal, avec une date de fin qui est le 16 juin. Ça permet aux gens de s'organiser, puisque 2 jours par semaine, ça va complètement contrecarrer les projets à court terme des usagers qui doivent aller tous les jours au boulot. Mais pour les personnes un peu plus friquées ou tout ce qui est un petit peu en fait business et où on peut s'organiser pas forcément au quotidien mais sur la semaine. Donc voilà, on redoute que avec le patronat, que la bourgeoisie puisse s'organiser sur ce genre de blocage. On rappellera que d'autres organisations, notamment Sudrail, majoritairement préconisent une grève totale et reconductible toutes les 24 heures. Et notamment à la gare du Nord, c'est ce qui va être pratiqué dès le 3 avril, c'est-à-dire une grève tous les jours reconductible, toutes les 24 heures avec AG le soir et décision de est-ce qu'on la reconduit, est-ce qu'on la reconduit pas. Dans tous les cas, on souhaite bon courage et on soutiendra les cheminots en grève et tout le secteur public qui va à partir du 3 aussi faire des grèves, des journées de grève, notamment finances publiques et notamment...
Il y a aussi un collectif des usagers hein, qui s'est monté et justement qui invite les personnes à ne pas s'opposer aux cheminots, on le rappelle, et plutôt à attendre vers les acquis sociaux que eux ont, parce que l'idée c'est quand même qu'on se tire pas dans les pattes les uns les autres, quoi. C'est pas nous en fait. C'est pas les oppositions entre nous en fait qu'il faut relever, mais plutôt comment on se fait exploiter sur tous les bords et comment il faudrait arriver à faire à niquer cette loi travail et à aller vers plus de justice sociale, si on devait parler bien.
Et justement, en parlant de l'extension du mouvement, tout de suite, on peut parler de l'extension justement du mouvement. La CGT a appelé à une grève illimitée à partir du 3 avril, qui est déjà une journée de mobilisation assez forte dans le service public. Donc elle a appelé une grève illimitée dans le secteur du traitement et de la collecte des déchets. Ce nouvel appel à grève, qui va donc coïncider avec celui des syndicats de la SNCF. Les deux fédérations CGT Services Publics et CGT Transport disent s'opposer à toutes les annonces du gouvernement, hein, que ce soit les annonces Macron, sur le travail, ou les annonces de casse des services publics et de leur statut. La mobilisation, elle s'élargit encore après le succès de la première journée de mobilisation. À Lyon, on était à peu près 15 000 personnes en manifestation, et on peut donc espérer que la mobilisation va être forte. À moins que certains s'amusent déjà à casser le mouvement avant même qu'il démarre et entérinent donc cette espèce d'idée de l'inefficacité de la lutte sociale. Alors j'ai une petite devinette pour vous. Qui dirige une des plus grosses centrales syndicales est détesté par la plupart des membres de ce même syndicat et s'est même retrouvé une fois à devoir manifester à Lyon pour ne pas se faire lyncher à Paris.
Il s'est fait lyncher à Lyon quand même, hein.
Mais du coup, t'as trouvé qui c'est?
Ah ouais, on l'avait défoncé, on l'avait sorti d'une manif. Bon,
on dit pas comme ça, ça pourrait faire un brainstorming de plusieurs jours pour trouver le responsable.
Allez, on cherche.
Bon, bah, est-ce que je le dis à nos auditeurs quand même, ou ils l'ont compris?
Tu peux donner des initiales.
Ouais, c'est JC. Allez, JC. Donc, JC alias Le Jaune. Donc déjà traître durant la loi travail, puis au moment des ordonnances Macron, donc Jean-Claude Mailly, hein, je vais le dire, parce que quand même, nous honore d'une nouvelle trahison. Toujours plus proche des positions macronistes, Mailly a déclaré qu'il ne voyait pas pourquoi FO irait en manif. Alors, hypocrite, il a d'ailleurs dit que l'on ne l'avait pas convoqué à de réunion préalable pour en discuter, chose qui est totalement fausse. Avec ces déclarations, alors que se tient prochainement le congrès qui doit le limoger normalement, peut-être que Mailly essaie de s'acheter une place au chaud en adoptant des positions, plus favorables au gouvernement. Mais à ce petit jeu, il est loin de battre Laurent Berger, hein, chef de la CFDT, qui nous a sorti quand même « La convergence des luttes, ce n'est pas la tasse de thé de la CFDT, pour une raison simple, c'est que la convergence des luttes, elle ne permet jamais d'avoir des résultats concrets. » Donc les résultats concrets de Berger, hein, on les connaît, c'est les petits intérêts catégoriels pour quelques-uns et la précarité généralisée pour la majorité des salariés. Bref, le dialogue social à la sauce CFDT, c'est la discussion de syndicalistes et de salariés soumis face à un patronat omnipotent et j'ai rien d'autre à rajouter là-dessus.
Et attention aux traîtres dans nos rangs, mais aussi à la répression dans ces moments de mouvement et de lutte. Puisque cette semaine, il y a eu une agression fasciste à Montpellier. Donc des étudiants en lutte contre la réforme de la sélection à l'université qui occupait la fac de droit ont été violemment attaqués par un groupuscule d'extrême droite vers minuit le 22 mars. Et c'est pas moins que le doyen de la faculté de droit et de sciences politiques qui a ouvert la porte à cette milice. Parmi laquelle auraient été reconnus deux professeurs doctorants de la faculté de droit de Montpellier, et plus un professeur. Et ils sont venus déloger cette cinquantaine de lycéens et étudiants mobilisés contre le plan étudiant qui occupait un amphi. Donc matraque, taser, il y a des étudiants blessés, le tout sous le regard du doyen et de la sécurité, des personnels de sécurité de l'université. Le bilan est de 4 blessés graves, dont 2 à la tête. Et il y a eu plusieurs réactions en soutien aux étudiants attaqués et pour dénoncer cette attaque fasciste. Par exemple, à Lyon, un rassemblement sur le campus des quais de l'Université Lyon 2 à l'occasion du bal du droit qui a du coup été annulé. Et les fachos en ce moment sont malheureusement très en forme puisque peu avant, vendredi 16 mars, le lycée autogéré de Paris avait aussi été la cible d'une expédition menée par des membres du GUD. Donc une dizaine de personnes ont débarqué dans la cour de l'établissement, armés de fumigènes et de barres de fer. Ils ont scandé « Groupe Union Défense », ont commencé à insulter les élèves du lycée autogéré de Paris de « Sale gaucho » ou de « Tafiole ». Et on fait des saluts nazis devant les élèves pris de panique, on les comprend. Il y a eu des vitres brisées et surtout des coups et des blessures au lycée autogéré de Paris.
Mais pour Montpellier, si je peux revenir dessus, pour moi, ce n'est pas un groupuscule d'extrême droite, en fait. C'est une banalisation du mal, en gros. Et on voit une montée fascisante un peu partout. Et là, pour le coup, c'est des gens qui sont organisés au pied levé parce qu'ils étaient dans la salle, apparemment, quand il y a eu les assemblées. Ils ont commencé à insulter tout le monde, etc. Et après coup, ils sont cagoulés et ils sont rentrés bedonnant pour virer tout le monde à coup de matraque.
Alors, c'est juste. Ouais, après, on peut quand même s'interroger sur leur pratique antérieure parce que je pense que. Enfin, c'est pas si spontané que ça, quand même, à mon avis. Non. Mais effectivement, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est que, par exemple, aussi un doyen de droit, professeur d'université, voit pas trop de problèmes à faire ça ouvertement et même ensuite à soutenir les agresseurs. Enfin, les fachos n'ont plus peur de rien.
Non, puis la fac de droit de Montpellier, elle est quand même réputée pour avoir des gens proches de la Ligue du Midi, d'être un peu nostalgique de Maurras, etc. On a ce genre de personnes parmi les profs qui sont représentés, donc rien d'étonnant à ça. Et il suffit qu'il y ait quelques étudiants aux cheveux gominés qui boivent les paroles de leurs profs, et puis ça y est, ils s'arment de bâtons et ils vont attaquer. Et justement, en parlant de Montpellier, il faut noter quand même qu'à Lyon, il y a eu une mobilisation en soutien lors de la fête du droit des doyens pour réclamer une prise de position des doyens contre le doyen de la fac de Montpellier.
Et sans transition, on passe à la question des frontières.
Non, en fait, à Grenoble, il y a eu un épisode équivalent jeudi dernier. À la fac de droit de Grenoble, il y avait un colloque qui s'appelait de Frontex à Frontex, qui était invité en soirée, donc avec du beau monde, notamment de l'agence Frontex, pour venir faire un peu de communication sur cette agence. Donc on peut rappeler que Frontex, c'est l'agence européenne des gardes-côtes et gardes-frontières, qui est une agence qui est de plus en plus financée, de plus en plus équipée, de plus en plus autonome du contrôle parlementaire européen. En fait, il n'y a pas de contrôle parlementaire européen sur Frontex. Et c'est une agence qui est assez nuisible, en fait, dans la mesure où on peut lui imputer les morts en masse en Méditerranée, dans la mesure où elle constitue, en fait, le bras armé de la politique migratoire européenne, et qu'elle participe aussi à la formation des gardes-côtes libyens et turcs, dont on sait qu'ils ont déjà été auteurs d'un certain nombre d'agressions armées sur des embarcations de personnes qui souhaitent venir en Europe. Donc il y avait un colloque qui s'appelle « De Frontex à Frontex », où par exemple le type de discours qui a pu être tenu dans la soirée, c'est qu'il faut faire attention à la radicalisation des populations dites migrantes vers l'Europe. Donc c'est le genre de philosophie qui est passé dans ce genre de séminaire à la fac de droit. Et c'était en présence d'un certain nombre de personnels de Frontex, de représentants de Civipol aussi, qui est un organe de police européenne. Et pendant cette conférence, à laquelle assistait tout un amphithéâtre, les portes ont été ouvertes et un certain nombre d'étudiants, une centaine d'étudiants opposés à la politique migratoire européenne, opposés à Frontex et souhaitant informer autrement le public des réalités de Frontex, a fait irruption et a interrompu en fait l'exposé en cours mais d'une manière verbale et juste tranquille, quoi. Je veux dire, c'était une intervention, et là-dessus en fait il y a eu un appel aux policiers qui était finalement pas si loin dans l'université, puisqu'en quelques minutes il y a je crois 6 camions qui sont arrivés et plein de flics ont débarqué dans l'amphithéâtre et ont violenter toutes les personnes en fait qui ne souhaitaient pas sortir de l'amphi, tous ceux qui avaient souhaitaient apporter une information différente, et donc en fait il y a eu une répression particulièrement violente, ce soir-là, jeudi soir, donc là c'est une autre forme de fascisme, c'est le fascisme institutionnel qui s'installe aussi ce jeudi soir-là à la faculté de Grenoble.
La radicalisation de la répression et de la réaction.
On peut peut-être passer, vu l'heure, de Frontex aux frontières sous la neige.
Ouais, carrément.
Du coup, j'ai pu récupérer des infos auprès d'amis qui se trouvent en ce moment entre Briançon, Montgenèvre et Clavière, dans les Hautes-Alpes, à la frontière italienne. Et en fait, il y a eu ce week-end des événements qui notent peut-être un changement en fait dans le dispositif frontalier en fait et dans la possibilité qui existe encore pour des personnes de traverser la frontière à cet endroit-là. Pendant tout l'hiver, on a pu observer en fait une certaine marge en fait de passage pour les personnes qui souhaitent venir en France au niveau de entre Clavière et Montgenèvre, donc Clavière la dernière ville en Italie tout en haut dans la haute vallée de Souza, et Montgenèvre le poste frontière et station de ski à cet endroit-là à 15 km de Briançon, et les gens ont pu passer relativement tout l'hiver. Il y a eu des interpellations et des refoulements, mais il y a eu quand même une possibilité laissée aux gens de passer, peut-être parce que la police, du fait de la médiatisation importante des solidarités briançonnaises et du danger que représente la montagne en hiver, etc., peut-être que la police, la préfecture, le ministère de l'Intérieur ne souhaitaient pas en fait prendre le risque d'un scandale associé à une mise en danger des personnes et associé à éventuellement un drame en montagne comme les actes policiers peuvent en générer. Et en fait, comme on arrive à la fin de l'hiver, à la fin d'un certain nombre de... On a passé les dernières vacances scolaires là, du mois de février, et la neige commence à fondre, et en fait, l'argument de la dangerosité du passage frontalier peut commencer à s'estomper un petit peu dans la tête des gens, et la médiatisation de l'hiver est un petit peu retombée aussi. Donc en fait, à partir de ce week-end, là, on a observé ce week-end un renforcement du déploiement policier. Il se trouve que jeudi soir, il y a des personnes qui souhaitaient traverser, mais qui n'étaient pas en situation physique de vraiment pouvoir traverser seules, et il n'y avait pas les moyens de secourir ces personnes. Donc 11 personnes, jeudi soir, ont eu besoin de squatter dans l'église de Clavière. Donc il y a eu un petit coup de main pour que ces personnes puissent squatter. Des familles avec enfants et des personnes pas en capacité physique de le faire. Vendredi, il y a 40 autres personnes qui sont arrivées de Bardonecchia, donc qui est la dernière gare après Turin en direction de Modane en France. Et puis ensuite, il y a quelques dizaines de kilomètres pour venir jusqu'à Clavière. On peut y venir en bus. Il y a donc 40 autres personnes qui sont arrivées. Et il y a eu une assemblée générale de ces personnes occupant l'église pour décider comment s'organiser, comment passer, avec un certain nombre de personnes solidaires présentes pour passer des informations aussi sur le dispositif existant, sur les différents... Voilà, tout ce qu'il faut connaître du contexte quand on arrive à cet endroit-là. Et une vingtaine de personnes a tenté le départ le vendredi soir. Le samedi, il y a à nouveau une autre quinzaine de personnes qui sont arrivées. Il y a eu une assemblée générale dans l'après-midi qui s'est poursuivie le soir. Et devant ce nombre de personnes qui s'accroissaient un peu, les autorités italiennes et françaises ont décidé de renforcer. C'est là qu'on a vu du coup le PSIG, le peloton spécial d'intervention de la gendarmerie, venir en renfort à la sortie de Montgenèvre sur la route de Briançon, et trois quarts de carabiniers italiens en équipés anti-émeute se poster sur les sorties de route et de sentiers de Clavière, comme si ces personnes en fait présentaient un danger particulier, alors que il est convenu dans tous les textes qui encadrent la circulation des personnes, qu'elles ont le droit de se présenter au poste frontière en exigeant de pouvoir demander l'asile en France, ou si c'est des mineurs, de pouvoir être pris en charge en tant que mineurs. Donc en fait, il y a eu ce relèvement du dispositif qui a rendu impossible les passages, ou en tout cas physiquement impossible. Les gens ont essayé d'y aller. Donc il y a une quarantaine de personnes qui a décidé à 23h de se pointer en direction de la France par un sentier neigeux. Et là, les motoneiges présentes avec les gros spots présents, en fait, ont créer une certaine panique chez les gens. Il y a des gens qui se sont dispersés dans le massif montagneux, et cette petite chasse entre les forces armée et les gens qui voulaient traverser, en fait, a duré la nuit, a mis en danger pas mal des personnes. Tous ceux qui en ont eu besoin sont retournés à l'église de Clavière dans la nuit, dans la journée du lendemain. Il y en a quelques-uns, quelques-unes qui ont réussi à aller jusqu'à Briançon, à échapper au filet. Et trois personnes qui ont décidé d'être solidaires et de prendre à bord de leur voiture un certain nombre de ces voyageurs ont été arrêtés sur la route de Briançon. Et du coup, on passait 6 heures en garde à vue. Quant aux personnes qui ont été arrêtées, qui étaient passagères des voitures, elles ont été refoulées en Italie. Et je ne sais pas si vous aviez entendu, c'est quand même, ça a été très fort médiatisé. Le week-end précédent, il y a un, comme il se définit lui-même, un maraudeur en infraction qui s'est fait arrêter lui aussi par la douane pendant une heure à peu près avec une femme enceinte à bord de son véhicule qui a pu être conduit finalement à l'hôpital de Briançon après un blocage assez fort quand même des douaniers. Et suite à cette interpellation qui a donné lieu seulement à une audition libre en fait 3 jours après, il y a eu pendant l'audition libre 150 peut-être, ouais voilà, personnes de plein d'endroits en fait, mais notamment du Briançonnais, qui sont venus en soutien devant le poste de police de Montgenèvre. Et par rapport aux arrestations aux 3 gardes à vue qu'il y a eu samedi soir, il y a eu très peu de solidarité en fait exprimée de la part du mouvement et très peu de soutien finalement de la part du mouvement. Donc aujourd'hui, on en est à un 4e jour d'occupation à l'église de Clavière. Le prêtre a porté plainte, l'évêché fait la pression contre son prêtre pour dire que l'église est plus grande que ça et que le pape a demandé d'accueillir, etc. Donc le prêtre n'est pas très content. Hier, il y avait un repas en place publique des occupants de l'église à la sortie de la messe. Le prêtre a arraché la banderole. Voilà, bref.
La charité chrétienne ne connaît pas trop.
Peut-être qu'on peut être vigilant parce que dans la Roya, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'évêché a permis de servir de tampon, en fait, entre la période où il y a eu une délégitimation, en fait, une chasse aux militants étiquetés non légitimes, et le passage ensuite de la gestion des migrants à la Croix-Rouge. L'évêché d'Imperia, à ce moment-là, a eu une espèce de rôle bien vu dans les médias et a récupéré, en fait, l'espèce de réussite sont ceux qui sauvent à ce moment-là, qui maintiennent les gens dans leurs églises en période de précarité, en situation de précarité. Et donc on peut essayer d'être vigilant à voir que se répète pas un phénomène équivalent où l'église finalement sert le jeu du pouvoir et permet la transition d'une situation où les gens arrivent à traverser à une situation où les gens sont enfermés dans les campos.
Ça serait du jamais vu.
Non, mais ça c'est déjà passé dans la Roya, et donc en fait on essaie d'être attentif à ce qui se passe pas au niveau de la frontière dans le Briançonnais, quelque chose d'équivalent, quoi. L'occupation de l'église de Clavière, donc en fait c'est une petite nouveauté. Le dispositif s'est relevé un petit peu à la fin du week-end, notamment parce qu'il n'y a pas eu d'arrivée hier soir dimanche parce qu'il y avait une grève des trains en Italie. Et cette église, en fait, c'est quelque chose de nouveau là-haut dans le paysage, parce qu'en fait, ça permet un peu plus d'auto-organisation pour les gens qui veulent traverser la frontière. Ça permet un espace et un temps de répit avant de passer. Ça permet de prendre le temps de s'organiser avant de passer, alors que jusque-là, en fait, les passages étaient soutenus par des personnes solidaires au bord de la rue principale de Clavière, au bord de l'église, à l'extérieur. Les gens s'habillaient en 5 minutes et puis devaient partir à l'aventure sans avoir rien comme info en fait, et puis potentiellement sous le regard permanent des flics qui passaient dans la rue principale de Clavière. Et là, le fait de pouvoir rester en fait quelques minutes, quelques heures, ou même de se reposer avant de partir, permet d'échanger des infos assez cruciales. Et ça permet aussi de se reposer quand on a été refoulé et qu'il est 5 ou 6 heures du matin. Et on peut voir depuis ce week-end une nouvelle écriture sur la route entre Clavière et Montgenèvre au niveau du passage de frontière. En italien, ça fait « I sbirri sono i soli stranieri sulle nostre sentieri », qui dit en français « Les flics sont les seuls étrangers, les flics et les soldats sont les seuls étrangers sur nos sentiers ». Et peut-être qu'en fait, voilà, il y a besoin de rappeler en fait que c'est la présence policière, la présence militaire au poste frontière qui rend dangereuse en fait la montagne, parce que sans ça, les gens pourraient, comme n'importe quelle personne, faire du stop ou bien traverser à pied et ne pas risquer leur vie pour venir demander la protection en France, protection qui, vu la gueule de la loi asile et immigration, est en train de disparaître, mais c'est un autre sujet.
Voilà. Du coup, les passages, ils sont fermés, là ?
Il y a eu un relèvement du dispositif. On revient un petit peu à ce qui était avant, la semaine dernière, etc. Mais en fait, c'est comme s'ils avaient poussé le curseur une première fois, là, ce week-end, et ils voient un petit peu les réactions, comment ça se passe en termes de réaction collective. Et du coup, ils analysent la situation et la réaction, et ils voient qu'avec trois camionnettes, par exemple, ça suffit pour bloquer. Donc ils savent qu'en rajoutant éventuellement un PSIG ou bien une patrouille de chasseurs alpins, ça suffit pour bloquer Montgenèvre. On n'a pas encore vu de passage important recommencer au niveau du col de l'Échelle, parce qu'il y a beaucoup trop de neige. Mais ça va être compliqué quand les gens recommenceront à traverser au col de l'Échelle, puisque ça relancera le jeu favori des agents de la PAF, qui consiste à chasser, à traquer les gens et être violent psychologiquement ou physiquement contre ces personnes.
De toute façon, à un moment donné, il va falloir que les gens ils se mettent à se bouger plus, quoi, parce que c'est pas possible. Comme tu le disais, la loi immigration qui est en train d'arriver va vraiment créer deux catégories de citoyens, va vraiment enlever énormément de droits actuellement à ces exilés. Et enfin, à regarder ça de manière impassible, ça sera de la collaboration, quoi.
Et d'ailleurs, contre cette loi asile et immigration, il y a eu une coordination national de nombreux collectifs en lutte contre cette loi, entre autres, et bien sûr en lutte en solidarité avec tous les exilés, tous et toutes les exilés. Donc on va passer quand même à une petite lecture de la position de cette coordination des gens et des collectifs en lutte en solidarité avec les migrants et immigrantes et contre la loi asile et immigration.
C'est le texte commun qui a été finalisé en fait à la fin de ce week-end. Donc une coordination nationale a eu lieu le 24 et 25 mars à Lyon contre les politiques anti-migratoires et en solidarité avec les exilés sans papiers migrants. Nous sommes une trentaine de collectifs locaux investis dans ces luttes spécifiques sur tout le territoire français. Caen, Paris, Villeurbanne, Bourges, Briançon, Grenoble, Aubenas, Avignon, Bourg-en-Bresse, Lille, Canet, Vennes, Le Mans, Turin, Tours. Issus de plein de combats et de différentes, que ce soit la réquisition du logement, des collectifs anti-expulsion, des travailleurs et travailleuses et étudiants et étudiantes sans papier, de l'accompagnement dans des mineurs et des mineurs isolés, des passeurs solidaires, des collectifs de solidarité. Nous avons pour objectif de mutualiser nos moyens afin d'organiser une riposte offensive contre la loi asile-immigration et plus généralement contre les politiques racistes et impérialistes de l'État. Pour nous, cette loi est non négociable. Nous demandons son abrogation. Pour nous, ni amendable, nous la rejetons en bloc. Examiné en procédure accélérée à l'Assemblée nationale dès le mois d'avril, ce texte exige une réponse immédiate et massive. Il s'inscrit dans un contexte d'attaques rejetées, répétées antisociales qui ciblent aussi bien les classes populaires, les étrangers, les fonctionnaires que les étudiants. Parallèlement, la fin de la trêve hivernale va provoquer de nombreuses mises à la rue, une précarisation accrue des premières concernées. C'est dans ce cadre délétère que nous appelons à multiplier les mobilisations dès à présent et jusqu'à l'abandon définitif de la loi. C'est pourquoi nous avons décidé de mener conjointement et simultanément une série d'actions. Nous vous invitons donc à tous et toutes à multiplier les initiatives et à se saisir de tous les moyens disponibles afin de renforcer la lutte.
Oh yeah!
Et ça nous fait un bon enchaînement avec le local où à Lyon donc on a pas mal parlé de la lutte et de l'occupation de l'Amphizède qui a vu la procédure en urgence demandée par le service départemental incendie et sécurité, donc les pompiers qui avaient demandé en urgence l'expulsion de l'Amphizède au tribunal administratif et qui ont vu leur demande rejetée puisque pour une fois la juge a considéré que finalement il était plus dangereux pour les personnes d'être dehors que d'être à l'Amphizède et que l'urgence de cette demande d'expulsion n'était donc pas fondée.
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les avocats donc les pompiers en fait sont arrivés en fait en étant persuadés de gagner et qu'ils avaient absolument raison sur tout. Donc en fait ils ont absolument pas préparé leur affaire, notamment parce que en fait ces bâtiments sont voués à terme à destruction pour la construction d'un collège et ils étaient incapables capable de donner en fait une date pour le début des travaux, donc qui enlevait aussi une des notions du caractère d'urgence et d'une nécessité rapide en fait de l'évacuation de ces personnes. Et donc en fait oui, comme la Kama le disait, ben, ils ont perdu donc au tribunal administratif, ce qui fait que il y a l'amphi Z est absolument pas expulsable dans les premiers temps. Contrairement, par contre, il faut leur rappeler au moins à la maison Mandela, qui est un immeuble juste à côté, où sont logés plus d'une dizaine de familles d'Albanais, et qui va être expulsé normalement début avril. Donc ça, on vous tiendra au courant dès qu'on a plus d'infos pour pouvoir continuer à mener la lutte, et en espérant continuer à garder ces bâtiments le plus longtemps possible, au moins jusqu'au début des travaux, qui normalement ne démarreront pas avant plus d'une année.
Et pour marquer la fin de la trêve hivernale et contre toutes les expulsions, dont celle de la maison Mandela, une manifestation est organisée ce samedi 31 mars à 10h30 à partir de Charpennes, où nous nous attendons nombreux et nombreuses. Pour finir, au local, action anti-patriarcat contre la venue de Bertrand Cantat au Transborder cette semaine. Une petite trentaine de personnes se sont retrouvées mercredi soir devant le Transbo pour protester contre la venue du chanteur, donc on le rappelle, qui a assassiné, enfin qui est coupable du meurtre de son ex-compagne et de... En tout cas,
de Marie Trintignant et de sa
pardon,
femme,
oui, et de Christina aussi, voilà. Parce qu'il faut pas oublier Christina, qui s'est suicidée dans un contexte de violence conjugale aussi assez important. Donc, les militants et militantes avaient bombé, affiché une banderole Quentin assassin, transbo complice avait été déployée, et Marie et Christina, on pardonne pas. Le groupe a fait face à la file de spectateurs et spectatrices. Et donc pourquoi...